Voilà, donc on est en studio, tout le monde est là, donc Samuel est arrivé, Damien est là, bienvenue à tous les deux. Est-ce qu'on vous entend dans le micro ?
Bonjour Zoé.
Bonjour Damien, bonjour Samuel.
Bonjour.
Est-ce qu'on t'entend ? Voilà, donc vous êtes venus tous les deux nous expliquer ce qui va se passer aujourd'hui et demain aussi, je pense, autour de la venue de Donald Trump qui est emblématique, mais qui est aussi un peu l'arbre qui cache la forêt du sommet de l'OTAN, qui n'est pas uniquement lié à la venue de Trump, malheureusement. Et donc, il y a toute une série d'activités qui sont menées. Damien, toi, tu fais partie de Quinoa, Samuel de la CNAPD. Et donc, expliquez-nous un peu comment fonctionne, qui organise ces événements, est-ce qu'il s'agit d'une plateforme, qu'est-ce qui se trame en tout cas aujourd'hui.
Pour la marche anti-Trump, ce sont quatre jeunes gantois qui ont lancé la mobilisation, qui ont été rejoints assez vite par toute une série d'organisations de mouvements politiques et autres. Et pour ce qui est de toutes les activités autour du sommet de l'OTAN, je vais peut-être laisser Samuel répondre à la question.
Ouais, là, en fait, c'est de faire un contre-sommet, c'est-à-dire d'organiser des conférences en marge du sommet de l'OTAN. Ça existe depuis...
On m'entend ? Voilà. Du coup, je reprends depuis le début. En fait, le fait de faire un contre-sommet, ça veut dire d'organiser une rencontre de militants et de gens intéressés par la question en marge d'un sommet de l'OTAN. Ça se passe depuis le sommet de Strasbourg, au début des années 2000. Et depuis, en fait, c'est, on va dire, une espèce de tradition d'organiser un contre-sommet dans l'endroit où le sommet de l'OTAN est organisé. Et donc là, ici, c'est en l'occurrence le Monde de la Paix belge, dont la CNAPD fait partie, qui organise une journée de conférence, mais qui aussi, avec des partenaires, dont une association qui s'appelle Agir pour la Paix, organise ce qu'on appelle un Peace Camp. Donc depuis dimanche passé jusqu'à vendredi de cette semaine, il y a un certain nombre d'activités qui sont organisées, des logements qui sont proposés aux internationaux qui voudraient venir s'établir en dehors des hôtels et des circuits classiques.
Ok. Et ça a lieu où ? Quand on est
Alors, la conférence a lieu dans les locaux de l'école Mariaps, à côté de la place du Luxembourg, rue d'Arlon. Donc demain, jeudi, jour de l'Ascension. La manifestation, elle, démarre et arrive à la gare du Nord. C'est cet après-midi, donc à 17h. Donc il y aura des speeches, puis la marche commence effectivement à 18h. Et alors, le Peace Camp termine vendredi, et là, je fais un peu de retard, puisqu'il y a une activité vraiment très intéressante en clôture, donc vendredi soir, puisqu'il y a une délégation de Standing Rock qui vient, donc qui se bat contre le Léoduc, qui a effectivement été installé, mais qui continue à se battre sur le principe, dans la réserve de Standing Rock, la réserve amérindienne.
Et donc, effectivement, c'est le combat de ces populations qui avaient apparemment réussi avant que Trump n'arrive au pouvoir à gagner leur bataille contre...
Tout à fait. Et donc eux, en fait, ils représentent un petit peu toutes les revendications de la manif contre Trump et contre l'OTAN, puisqu'ils défendent l'environnement, ils défendent les populations locales, les populations différentes au regard de Trump. Et ouais. Donc ils sont là pour... Ils parleront aussi pendant la manifestation pour rappeler pourquoi les gens sont censés se mobiliser.
Ok, et justement, quels sont les enjeux actuels, les enjeux de ce sommet-ci, de l'OTAN ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être décidées, sur lesquelles il faudrait potentiellement pouvoir faire pression ou pouvoir changer la donne ?
En fait, l'enjeu principal de ce sommet-ci, c'est donc la Belgique, au moment où Di Rupo était Premier ministre, s'est engagée auprès de l'OTAN d'atteindre 2% du PIB en dépenses en armement. Pour le moment, au moment où Di Rupo a pris l'engagement, on était à 1,2%. Là, on est tombé à 0,9%. Donc, ça va être plus du double des dépenses militaires que la Belgique est censée faire dans le militaire et dans l'armement pour correspondre aux normes de l'OTAN. Et en fait, Donald Trump vient d'annoncer une dépense de l'État américain de 60 milliards d'euros dans l'armement. Et donc, il veut vraiment envoyer un message aux États membres européens de l'OTAN de poursuivre les engagements qu'ils avaient pris il y a deux ans, d'atteindre 2% du PIB. Donc énormément de dépenses militaires qui sont annoncées en Belgique, qui sont déjà prises pour certaines, donc remplacement des avions de chasse, achat d'avions, de jeeps, de casques, de trucs pour faire la guerre. Et Et donc voilà, dans un pays où on coupe dans tous les postes qui sont nécessaires à la société, ça nous paraît particulièrement problématique. Et c'est ça qui va être discuté essentiellement demain.
Okay. Et la CNAPD, justement, avait déjà été fort active dans cette campagne qui avait eu lieu contre l'achat des avions de chasse.
Ouais, tout à fait. Et c'est une campagne qui continue. Bon, là, on la met un petit peu en veille, puisque, bon, en fait, on achète des avions de chasse en Belgique pour correspondre aux demandes de l'OTAN, donc les deux sont liés. Mais donc, c'est la plateforme Pas d'avions de chasse a démarré en 2015 et elle continue maintenant. Et là, on va bientôt annoncer une nouvelle campagne que je me ferai plaisir de venir présenter à Radio Panique si vous m'invitez.
Damien, tu voulais compléter ?
Mais il y a tous les enjeux propres à ce sommet-ci pour lesquels il est bon de venir manifester, mais il y a aussi les réponses en général de l'OTAN aux différentes crises qu'on connaît, qui est, c'est une grosse institution militaire, et comme toutes les grosses institutions, elles essayent un peu d'auto-justifier leur existence et donc de toujours mettre leurs solutions en avant-plan, et les solutions propres à l'OTAN, malheureusement, sont souvent, presque exclusivement, des réponses militaires aux crises, avec le peu de succès qu'on a pu remarquer, spécialement ces 10 dernières années.
Ouais, et à l'intérieur de l'OTAN, il y a clairement une prophétie autoréalisatrice. Donc on dit l'ennemi, par exemple, c'est la Russie, donc on fait tout pour que l'ennemi devienne effectivement un ennemi. Et c'est un peu comme ça avec le phénomène du terrorisme, tous les phénomènes que l'OTAN prétend combattre. En fait, la manière dont elle entend se prémunir de ces menaces-là, en fait, engendre ou crée ou approfondissent les menaces qu'elle est censée amoindrir.
Ok. Et quel est l'état de la mobilisation actuelle ? Est-ce que c'est quelque chose qui peine à faire son nid, enfin à percer en tout cas sur le débat public dans la population en général ? Est-ce que c'est mobilisateur ?
Ce qu'on constate aujourd'hui, je le déplore, mais voilà, c'est un fait. Trump est beaucoup plus mobilisateur que l'OTAN, donc du coup l'initiative de ces quatre gantois au final nous arrange, puisque ça nous permet d'avoir de pouvoir espérer une mobilisation plus grande que si la mobilisation avait été dirigée uniquement contre l'OTAN, parce que c'est vrai que en Belgique, dans d'autres pays d'Europe probablement, mais en Belgique en particulier, c'est pas un sujet qui mobilise beaucoup. Et le remplacement des avions de chasse, par exemple, qui, de notre point de vue, est très mobilisateur, à partir du moment où on annonce une dépense de 15 milliards d'euros alors que tout le monde doit serrer la ceinture. Même là, c'est extrêmement compliqué, puisque bon, on constate que les gens ont peur et que, vu le discours médiatique et politique généraliste, la manière de se prémunir contre cette peur-là, c'est de s'armer. Donc ce que propose l'OTAN, ce que propose le gouvernement belge, et donc pour le moment, malheureusement, la population belge dans sa majorité y croit.
Oui, et c'est vrai que, pour ajouter à cette nécessité de se mobiliser, si on regarde les dernières années en politique internationale et au sein de l'OTAN, enfin des pays représentés dans l'OTAN, notamment par rapport au terrorisme, c'est assez effrayant de voir à quel point le mot guerre a été utilisé vite et facilement, alors que dans le passé, même quand ils faisaient des guerres, ils avaient tendance à utiliser d'autres mots pour éviter toutes les connotations négatives attachées à ce mot-là, et que maintenant c'est devenu presque la réponse automatique. On se souvient du discours de François Hollande au lendemain des attentats de Paris, où c'est le premier mot, la première phrase qu'il a dite, que la France était en guerre. Or, je crois que beaucoup de gens partagent heureusement le constat qu'il y a beaucoup de causes au terrorisme qu'on ne sait pas attaquer avec des bombes, des avions de chasse et des réponses armées.
Ok. Et si on veut, pour rappeler, si on veut s'investir dans cette campagne, il y a donc la CNAPD, il y a Quinoa. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont actifs ? Tu as cité Agir pour la paix aussi. Est-ce qu'au niveau associatif, en tout cas, c'est quelque chose qui mobilise, ou bien justement ça passe aussi à la trappe parce qu'on se mobilise sur des enjeux plus, plus porteurs
Bon, de nouveau, moi j'ai l'impression que c'est quand même un des enjeux porteurs, à partir du moment où il synthétise en fait beaucoup de combats de la société civile en Belgique pour la défense, la justice sociale, pour la défense de l'environnement, pour En fait, pour moi, l'achat de ces avions chasseurs-bombardiers cristallise un petit peu l'ensemble des combats que l'associatif belge mène actuellement. Maintenant, de dire si c'est mobilisateur, c'est très difficile à dire. Sur le papier, oui, puisque donc la plateforme Pas d'avion de chasse, c'est plus de 130 associations de la société civile belge, dont des grosses associations comme le Mouvement Ouvrier Chrétien, Oxfam, Greenpeace, Quinoa. Mais le problème qu'on constate actuellement, et bon, on essayait de continuer les pourparlers avec eux, mais ça s'avère de plus en plus difficile, c'est que manifestement, les syndicats ne veulent pas mobiliser sur la question. Ils défendent l'idée d'un gros investissement de la Belgique, que ce soit dans le militaire ou dans autre chose. Le principe d'un investissement public est toujours recherché. Nous, on est pour les investissements publics, mais pour les investissements qui soient rentables socialement. C'est-à-dire, pour nous, c'est directement plus bénéfique d'injecter directement 15 milliards d'euros dans l'économie réelle en Belgique que d'acheter des avions de chasse ailleurs pour espérer avoir des clopinettes comme retombées économiques chez nous. Et donc, c'est une discussion qu'on a encore avec les syndicats. Malheureusement, c'est manifestement très difficile de les avoir à bord.
Mais c'est aussi une discussion qui est un peu difficile à avoir par rapport à la vente d'armes qui est en partie liée. C'est ce genre de thématique qui, d'un côté de la balance, il y a les emplois, par exemple, de l'AFN notamment, et de l'autre, il y a le fait que l'éthique et effectivement les combats que des organisations peuvent mener par ailleurs et que les syndicats soutiendraient aussi.
Et là c'est d'autant plus difficile que en fait les grosses entreprises wallonnes, il y a aussi Barco en Flandre, mais surtout wallonnes de l'aéronautique, en fait, sont nées grâce entre guillemets ou entre mille guillemets à l'achat des F-16 à l'époque. Mais bon, c'est le dossier, on peut en parler si tu veux, mais la Belgique faisait partie du développement industriel du F-16, donc ça n'a rien à voir. Maintenant, ici, on va acheter à l'étranger un avion qu'on va utiliser après et dont on peut espérer quelques emplois pour la maintenance, pour la formation des pilotes ou des emplois dérivés qu'on redonnerait à la Sonaca ou quoi, pour parce que comme on a acheté, on va te faire un petit quelque chose. Mais ça sera rien à voir avec ce qu'on a pu observer avec l'achat des F-16, mais les syndicats, manifestement, sont encore dans cette nostalgie-là. Le problème ici, c'est qu'il n'y a personne qui peut chiffrer vraiment ce qu'on est en droit d'attendre d'un investissement dans des avions chasseurs-bombardiers. Et les gens qui s'y intéressent un petit peu montrent que clairement, il n'y a pas grand-chose à attendre. Si ce n'est plus de destruction dans le monde, évidemment.
tchaka, houka, houka.
Donc c'était Félix, c'était quoi qu'on a écouté ?
The Clash, j'en ai marre des États-Unis.
Et c'est d'actualité avec, avec ce dont on parle pour l'instant, avec Damien et Samuel. Et donc, hors antenne, on discutait un peu de savoir si le fait d'avoir focalisé cette marche aujourd'hui contre Trump, et depuis que Trump est au pouvoir, on focalise beaucoup sur le personnage qui est évidemment imbuvable et inacceptable, mais est-ce que, selon vous, ça empêche de voir les vrais problèmes, de se mobiliser sur les vrais problèmes, ou au contraire, c'est une opportunité ?
Il y a un peu un côté où c'est un personnage tellement détestable qui rassemble beaucoup de stéréotypes négatifs qui énervent énormément que, oui, il y a un côté rassembleur, je pense, de manifester contre lui. Ça peut être le côté où finalement ça éclipse un peu les autres problèmes, dans le sens où peut-être que certains se disent si on se débarrasse, si on n'a plus un Trump, les choses iront mieux. Mais d'un autre côté, pour beaucoup de gens, Trump est symptomatique de beaucoup de choses qui vont mal, et il représente ce contre quoi il s'engage, et donc ils viendront à cette manifestation pour porter des messages justement qui sont plutôt porteurs d'espoir. On y retrouvera des mouvements féministes contre le racisme, pour la défense de l'environnement, le mouvement pour la paix sera là aussi, le mouvement contre l'OTAN. Donc, sont tous des gens qui portent des luttes depuis très longtemps, qui sont actifs sur toutes ces thématiques, et quelque part, le fait de les voir marcher ensemble, ça, c'est quelque chose de positif. Et je pense, j'espère en tout cas, que au sein de toutes les personnes qui marcheront ce soir, le constat sera assez bien partagé qu'il ne s'agit pas que de Trump. D'ailleurs, assez vite, quand on faisait un atelier pour préparer des banderoles et des calicots, on voyait apparaître sur ces panneaux des messages de solidarité avec les personnes qui sont directement touchées par les politiques de Trump, avec les personnes qui luttent depuis même longtemps avant son élection contre tout ce qu'il représente, et aussi des messages qui portent des alternatives assez politiques, assez intéressants.
Oui, moi je trouve ça intéressant en effet de pouvoir accueillir une personne aussi détestable, comme le dit très justement Damien, pour justement dénoncer les bribes de ce que lui représente, qui se passe déjà chez nous. Moi j'étais frappé pendant la campagne française de voir toute la mobilisation virtuelle de la Belgique en disant oh, vous imaginez Marine Le Pen au pouvoir en France, quelle catastrophe ça va être, alors qu'en Belgique on a déjà l'extrême droite au gouvernement. Je pense que c'est nécessaire d'utiliser ce genre d'événement pour nous rappeler ce pourquoi on doit se mobiliser ici en Belgique et en Europe. Maintenant, vis-à-vis de l'OTAN, c'est vrai que nous, on est un tout petit peu frustrés, évidemment, de ne pas pouvoir proposer une manifestation directement sur l'OTAN, puisque ça veut dire une attention médiatique aussi directement sur l'OTAN, l'occasion pour nous de parler de ce pourquoi il est nécessaire, il faut se mobiliser contre l'OTAN. Et donc là, on peut le faire de manière indirecte, même si on peut évidemment le faire. Et même pour l'OTAN, Trump est pour nous une aubaine quelque part, puisque ça nous permet de mettre l'emphase sur une institution à laquelle on n'aurait pas parlé si Obama avait continué à être président des États-Unis, parce que quand on regarde la politique internationale d'Obama, c'est lui qui a annoncé plus de 100 milliards d'investissements dans l'armement nucléaire américain. Il a multiplié les attaques par drone, donc les attaques ciblées extrajudiciaires au Yémen, au Pakistan, dans d'autres pays de cette région-là. Donc Barack Obama n'a pas fait du bien au monde, mais comme il était, il passait bien, il était sexy, cool, en fait, on lui pardonnait un petit peu tout. Et c'était plus difficile encore avec Obama de parler de l'OTAN. Et donc là, avec Trump, malheureusement et heureusement, ce sera plus facile d'en parler.
Oui, il y a le côté plus facilement détestable de Trump, en effet, qui remet en lumière, en tout cas en ce qui nous concerne directement, la politique étrangère des États-Unis, qui a été terriblement interventionniste, et déjà depuis longtemps avant l'arrivée de Trump.
Oui. Et du coup, c'est vrai que l'OTAN, c'est un peu un acquis dans la politique extérieure, et c'est difficile de remettre sa présence et son existence même en cause, justement, parce qu'on a réussi à fabriquer, comme tu le disais, cet ennemi russe qu'il faut combattre selon tous les moyens.
En Belgique, l'OTAN est tellement importante qu'il n'y a aucun gouvernement belge qui va assumer le fait, enfin, qui savent que les armes nucléaires qui sont en Belgique ne servent à rien, mais qu'on ne veut pas les débarrasser parce que l'OTAN, c'est important.
Oui.
En gros, quoi.
C'est ça. Mais du coup, c'est intéressant aussi de voir comment je veux dire, la gauche et la droite et tous les gouvernements font plus ou moins la même chose, mais du coup, c'est quand il y a des extrêmes qu'on réagit un peu plus, et donc que ce soit avec Marine Le Pen ou peut-être maintenant le gouvernement actuel ici en Belgique qui est l'objet, à raison aussi, de critiques. Mais on oublie parfois, souvent en tout cas, que ça a été mis en place bien avant et que finalement c'est une politique qui dure depuis, voilà. Depuis longtemps.
En politique internationale, aux États-Unis comme en Belgique, tous les gouvernements successifs font exactement la même chose.
Oui, c'est ça. Et donc il y a des enjeux et c'est aussi intéressant de voir qu'au moment même où... cet attentat hier matin à Manchester a lieu au moment même où Donald Trump signe des contrats mirobolants avec l'Arabie Saoudite et tous les enjeux qu'il peut y avoir. Donc on voit peut-être un peu la difficulté aussi à agir. Je vois que le temps passe. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Rappelez peut-être la succession d'événements, enfin de points de ralliement, en tout cas pour les deux prochains jours. Tout à l'heure.
Tout à l'heure, à 17h, tout le monde est attendu à la gare du Nord pour une série de prises de parole. Et puis la marche qui commencera, elle, à 18h, il me semble, qui suivra tout un parcours. Demain, donc, le 25, on sera au moment du sommet de l'OTAN. Là, il y a eu un appel à action. Donc, il y a toute une série d'actions qui sont prévues. Pour ceux qui ont envie de rencontrer les défenseurs de l'eau, parce qu'il y a des gens de Standing Rock, mais aussi d'autres luttes des États-Unis, quelque chose qui n'a pas été dit, je rappelle qu'ils seront là aussi samedi, à 15h à l'ULB pour une conférence, donc où eux auront évidemment la première place sur scène, mais il y aura aussi des représentantes et des représentants d'autres luttes en Belgique pour avoir un peu un échange ouvert avec le public sur ces différentes luttes.
Et donc ça, c'est le contre-sommet où ces deux événements, parce qu'il y a beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de choses, donc il y a les événements... Il y a la marche donc liée à la venue de Trump tout à l'heure, mais évidemment tout le mouvement qui manifeste contre ce sommet de l'OTAN sera présent aussi. Demain, je vais peut-être te laisser lire l'agenda.
Pour le Peace Camp, il y a toujours une permanence qui est organisée, donc tous les auditeurs peuvent se rendre quand ils veulent dans les locaux de la Zinuck Parade, où il y aura des représentants du Peace Camp qui seront là et qui pourront donner un programme plus détaillé. Le programme est aussi disponible sur Internet. Avec toutes les activités qui composent le contre-sommet de l'OTAN. Donc le site internet s'appelle stopneto2017.org. Alors demain, en effet, il y a toute la journée de conférences à Maria, parce que comme je le disais tout à l'heure, mais il y a aussi des mobilisations qui sont proposées, et là directement contre l'OTAN et plus proche de l'institution de l'OTAN. Donc il y a le Peace Rally qui commence à 11h, qui sera un lieu où on débattra, où on échangera, où on prendra la parole, où on écoutera de la musique. Et ça, c'est directement juste à côté de l'OTAN. Il y aura des actions directes aussi qui seront... il y en a déjà une hier matin dans la DG Entreprise de l'Union Européenne. Il y en aura d'autres, des actions directes parallèlement au sommet. Mais ça, évidemment, on peut pas en dire un petit peu plus. Mais de nouveau, toutes les infos sont sur le site Stop Netto 2017. Et alors, vendredi, la clôture du Peace Camp avec les représentants de Standing Rock et des défenseurs de l'eau, en effet.
Et donc, eux-mêmes qui seront un jour de plus à Bruxelles dans une conférence samedi à l'ULB à 15h pour ceux qui... n'auront pas eu la chance de les rencontrer ou ce soir, ou au Peace Rally demain, ou à la clôture de conférence du Peace Camp vendredi. Donc il y a vraiment mille occasions, profitez-en.
Et dernière chose pour la manifestation, elle termine par la marche, donc c'est une boucle, elle termine par deux concerts, donc il y aura aussi un lieu de rassemblement à la fin de la manifestation tout à l'heure, aux alentours de 20h.
Ok.
Et pour celles et ceux qui veulent spécialement rejoindre la CNAPD et Quinoa pour la marche, on vous invite devant la tour Proximus un quart d'heure, 10 minutes avant le début de la marche. Donc c'est juste à côté du point de départ.
Ok, ben, merci beaucoup Samuel, Damien, Félix, Anthony, merci d'être venus et à tout bientôt.
De rien. Avec plaisir.
Et bonne journée. On continue dans la programmation Alimentation sur Panique avec un documentaire sur les abattoirs et puis la programmation classique du mercredi sur Radio Panique. À bientôt.